Bienvenue sur Mediapart dans cette nouvelle émission de notre collection La Révolution Féministe. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers du soin qui se sont révélés si indispensables durant la pandémie, des métiers très féminisés, mais aussi très mal reconnus et très mal payés. Pour en discuter, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Basile. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auxiliaire de vie. Certains lecteurs de Mediapart vous ont déjà découverte grâce au travail du photographe Vincent Jarousseau que nous avons publié. France Inter vous a aussi consacré un portrait récemment. Et à vos côtés, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui directrice France de l'ONG One qui lutte contre l'extrême pauvreté. Et vous êtes surtout connue pour avoir été ministre sous le précédent quinquennat de l'éducation, mais aussi des droits des femmes. Et vous venez de publier avec Sandra Laugier, La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise. Donc on est au cœur du sujet avec ce livre. Pour ceux qui suivent le studio, vous avez peut-être remarqué qu'on a tombé les masques, mais on a quand même gardé les précautions, on a changé le décor pour avoir plus de distance entre nous et surtout on aère les pièces. C'est souvent une précaution oubliée. L'aération des pièces en permanence, pour ce qui nous concerne, est importante. Marie-Basile, vous exercez un des métiers dont il est question dans la société des vulnérables. Vous nous rejoignez d'ailleurs depuis le domicile d'une des personnes que vous aidez au quotidien. Qu'est-ce que l'épidémie a changé dans l'exercice de votre travail? Qu'est-ce qu'elle a rendu peut-être plus difficile?
Oh, l'épidémie a changé beaucoup de choses. Surtout, ces personnes âgées aiment le contact. Alors, s'il n'y a pas ce contact, elle se sent un peu seule. Elle, même si vous êtes là, elle croit qu'elle est toute seule. Alors, l'épidémie a changé ça parce qu'on ne peut plus être en contact direct avec ces personnes.
Même le toucher, quoi.
Toucher, peut-être quand elle se lève et on est obligé de passer toute la journée avec le masque quand on est avec la personne. Et parfois, quand on entre chez elle, elle ne te reconnaît pas parce que tu as le masque. Bon, tu es obligé d'enlever le masque pour lui dire, tu te présentes, tu lui dis c'est moi et tu remets le masque. Et elle, quand elle me voit toujours avec le masque, elle se met à pleurer. Je suis obligée de m'éloigner un peu d'elle. J'enlève le masque. Je dis, c'est moi, je suis toujours là avec toi. Et en plus, on travaille avec des personnes malvoyantes, les personnes qui peuvent pas se nourrir seules. Mais là, on est obligé de les nourrir, de les donner à manger parce que cette personne ne peut pas manger toute seule. Mais quand même, en respectant les gestes barrières, en mettant toujours le masque, toute la journée qu'on passe avec ces gens, on est obligé de mettre le masque. Et là, le confinement a vraiment changé ça parce qu'avant, c'était pas ça. Moi, je pouvais lui donner, elle aimait toujours que je lui touche un peu, elle aime bien le toucher. On sortait de temps en temps, mais là, il y a des choses que je peux plus faire. Le toucher, là, bon, si je vois qu'elle ne peut pas se lever parce qu'il y a des fois, elle n'arrive pas à se relever seule, je suis obligée de mettre les gants et l'aider à se relever.
Cette dame dont vous parlez, c'est Florenza, hein, qu'on voit dans le travail
c'est
de Vincent Jarousseau. Ça, c'est sur le contact avec les personnes. Oui. Mais avant que l'émission démarre, on discutait des questions de transport. Vous me racontiez qu'au moment, surtout du premier confinement en mars, ça a rallongé vos temps de transport de façon assez
incroyable. Oui. Moi, j'habite déjà Stein. Donc, pour partir de Stein, déjà même en temps normal.
Stein, et vous venez à Paris.
Je travaille à Paris. Déjà même en temps normal, pour partir de Stein à Paris, il me faut au moins 50 minutes. Ouais. Donc, imaginez, le premier confinement, c'était tellement terrible pour trouver les transports. Donc, je mettais plus d'une heure, parfois deux heures de temps pour arriver au travail. Et en même temps, parce que Vincent Jarousseau me suivait durant tout le confinement, il était même venu à la maison prendre les transports en commun pour essayer de voir comment ça se passe. Alors là, il en sait quelque chose, parce que c'était pas du tout facile. Non seulement les transports n'étaient pas réguliers, les métros, les trains n'étaient pas réguliers, mais il y avait, quand le train arrivait, il y avait un monde, il y avait l'affluence, vraiment. Il a vécu ça, il en sait quelque chose. Donc, j'arrivais au travail à l'heure parce que j'étais obligée de partir de la maison plus tôt. Même si je faisais deux heures, j'arrivais quand même peut-être avec 30 minutes de retard. C'était quand même passable.
Alors, Najat Vallaud-Belkacem, vous avez eu l'idée de ce livre avec Sandra Laugier, justement pendant le confinement. Vous dressez une sorte de bilan de ce que nous a appris cette épidémie. Vous remarquez d'ailleurs, avec un peu d'ironie, qu'on a soudainement découvert l'écart abyssal qu'il y a entre l'utilité de ces métiers et leur faible reconnaissance par la société. Il y a un point important, le thème général de cette collection d'émissions, c'est le féminisme. Vous dites que ces tâches, elles sont peu valorisées par la société, justement parce qu'elles sont exercées en grande majorité par des femmes. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir la causalité, selon vous.
Oui, c'est ça. Ce qui est fou, c'est que même quand on semble prendre conscience de l'utilité de ces tâches, de ces missions, de ces métiers, et on en a pris conscience pendant le premier confinement, en fait, ça ne se traduit pas ensuite par un changement dans notre perception réelle et une revalorisation ou une démarche de revalorisation qui pourrait prendre du temps, mais qui au moins serait initiée, de ces métiers. Et pourquoi est-ce que ça ne se traduit pas ? Parce que, en réalité, le fait même que ces métiers soient considérés comme une extension du champ domestique, en fait, finalement, les desserts. En fait quelque chose d'accessoire, en fait quelque chose de pas si important. Et donc, malgré la prise de conscience du premier confinement, on se retrouve exactement dans la même situation aujourd'hui, avec des métiers toujours aussi difficiles à exercer, avec une revalorisation. Il y a eu le Ségur de la santé, certes, pour quelques personnels soignants, que quand même beaucoup d'agents de la fonction publique hospitalière n'ont pas été concernés par le Ségur de la santé, mais quid aussi des autres ? Il n'y a pas que les soignants dans les métiers du care. Et c'est justement pour ça qu'on a voulu rédiger cet opus avec Sandra Laugier, c'est qu'on a voulu finalement englober tout ce qui, dans notre société, consiste à protéger les autres, à prendre soin des autres, à apporter de l'attention aux autres, qui pour nous sont de vrais métiers et qui sont en fait à nouveau totalement déconsidérés. Donc oui, le fait que ces métiers soient pour beaucoup, parfois 90% exercés par des femmes, explique pourquoi ils sont si peu reconnus.
Vous parlez d'extension de la domesticité. Au fond, c'est un peu ce réflexe qu'il y a, très patriarcal, de dire, au fond, ça, c'était des tâches qui apparemment se faisaient dans les foyers, une sorte de travail gratuit, quelque part, exercé par les femmes. Alors là, certaines sont salariées, mais bon, du coup, on les considère moins pour cette raison.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, on relève une chose, c'est que, vous voyez, dans nos sociétés dites modernes où on a progressé sur les questions d'égalité femmes-hommes, en effet, on a un peu progressé. Eh bien, dans ces sociétés modernes, la façon dont un certain nombre de femmes se sont autonomisées, ne s'occupant plus des tâches ménagères, domestiques, ou même de la garde des enfants, etc., ça n'est pas en répartissant mieux la charge avec les hommes, c'est en faisant appel à d'autres femmes encore plus vulnérables, encore plus précarisées. Et donc ça, c'est un angle mort de notre soi-disant chemin vers l'égalité. C'est que ce chemin vers l'égalité, en fait, il s'est fait au détriment d'autres femmes et pas en répartissant mieux la charge entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on met la lumière dessus, c'est que si on ne le fait pas, il y a des femmes qui sincèrement croient dans nos sociétés qu'il n'y a plus de problème d'inégalité femmes-hommes, parce qu'elles n'ont pas à en pâtir directement, et c'est pourquoi le féminisme, parfois, a mauvaise presse, y compris auprès de certaines femmes, alors qu'en fait, c'est leur vision qui est biaisée. Donc, il faut mettre en lumière toutes les inégalités là où elles sont. Il faut des données, il faut des chiffres, il faut des études de genre pour démontrer qu'il y a un problème. Et la crise du Covid-19 a été l'occasion de constater une fois de plus que les femmes sont les principales victimes de n'importe quelle crise. À chaque fois qu'arrive une crise, ce sont les principales à être vulnérabilisées. Donc on a besoin de chiffres pour mettre ça en lumière.
Juste une dernière question avant de redonner la parole à Marie-Basile. Ça, c'est un point important que vous soulignez dans le livre, c'est que toutes les crises, justement, n'impactent pas forcément les femmes en priorité. La crise de 2008, vous le rappelez, a beaucoup frappé notamment les hommes dans l'industrie. Et ça, cette crise-là, celle de la pandémie de mars 2020, elle a touché beaucoup, beaucoup plus les femmes. En France et dans d'autres pays, y compris au Sud.
Absolument. De multiples façons. Alors, vous pourriez commencer par me dire, oui, mais les premiers chiffres avaient montré que les hommes étaient plus souvent infectés que les femmes.
Bon, ça d'abord, c'est pour ces chiffres-là, ceux qui ont la maladie, quoi.
Voilà, infectés au sens pathologique. D'abord, ces chiffres-là, ils vont être complétés au fur et à mesure, puisque, comme vous le savez, il a fallu un temps fou pour comptabiliser les morts dans les EHPAD, et on va vite se rendre compte que les morts dans les EHPAD, c'est d'abord des femmes avant d'être des hommes.
Mais bon, il y a plus de femmes âgées dans les EHPAD.
Mais bon, au-delà de la question des infections au sens maladie du terme, la réalité, c'est qu'en matière économique, ce sont en effet les femmes qui ont été les premières touchées, dans les sociétés développées comme dans les pays en développement. Dans les sociétés développées, parce que ce sont les premières à avoir dû quitter leur emploi ou à avoir dû l'interrompre parce que se retrouvant à la maison avec une double charge, s'occupant des enfants, etc., il y a des choses qui devenaient impossibles. Même les femmes cadres, l'INED a sorti une étude qui démontre que quand vous êtes cadre, que vous êtes un couple homme-femme, tous les deux cadres, les femmes ont beaucoup plus pâti du confinement que les hommes, notamment à cause de cette double charge. Dans les pays en développement, même chose, les femmes souvent plus en situation de vulnérabilité économique, soit travailleuses informelles, soit migrantes, soit travailleuses de la terre, etc., ont beaucoup plus pâti des effets économiques de la pandémie. À cela, vous rajoutez l'affaire des violences. Qui ont repris, qui ont explosé absolument partout. On estime qu'en 6 mois de confinement, c'est 30 millions de cas de violences de genre supplémentaires dans le monde. Enfin, c'est quelque chose qu'on constate absolument partout. Donc oui, les femmes ont été les premières victimes de cette pandémie. Et alors, pour revenir à votre question, vous disiez par rapport à la crise de 2008... Oui, nous, ce qui nous frappe, c'est qu'en 2008, crise financière, c'est vrai que c'est une crise qui affecte beaucoup des secteurs d'activité comme la banque, l'automobile, l'aéronautique, etc. Et qu'à ce moment-là, tous ces secteurs d'activité qui sont assez masculins, ça paraît logique que les gouvernements mettent d'abord de l'argent et des plans de relance dans ces secteurs-là. Cette fois-ci, c'est une crise qui affecte d'abord le secteur des services, des commerces, de l'hôtellerie, où on trouve beaucoup plus de femmes. Et qu'est-ce qu'on voit dans les premiers plans de relance qui sont décidés par les gouvernements ? Qu'on va d'abord aider l'aéronautique, l'automobile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider. Hein. Mais enfin, c'est étrange quand même qu'on ne se soit pas posé la question de savoir... Donc là encore, on ne revêt jamais les lunettes de genre qui, pourtant, permettraient d'y voir beaucoup plus clair sur les priorités qui devraient être les nôtres. Et pourquoi on ne les revêt pas ? C'est tout le thème du livre. Parce que dans la prise de décision, les femmes ne sont quasiment pas présentes. Mmh. C'est incroyable comme le leadership dans nos pays, le leadership de la gestion de crise, est apparu quand même très masculin.
Très masculin. On va en reparler de ça. Marie-Basile, je me tourne vers vous parce qu'on parle beaucoup justement de la faible reconnaissance du métier que vous exercez, la faible rémunération. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, concrètement, vous, avec le travail que vous menez, vous nous avez donné un petit aperçu sur le temps que ça vous prend dans une journée, combien vous gagnez grâce à votre travail et est-ce que ça vous suffit pour vivre, pour vous loger correctement ?
Non, du tout, parce que l'auxiliaire de vie, c'est déjà... Le nom d'auxiliaire de vie, c'est même un nom que les gens ne connaissent pas. Eux-mêmes nous appellent les oubliés. Nous sommes les personnes derrière aux portes. Donc, le problème, c'est l'auxiliaire de vie est très mal payé. Très, très mal payé par rapport à ce qu'on fait. Parce que moi, je rejette cette faute à l'APA. Normalement, c'est l'APA qui cause un peu de tout ça. Des auxiliaires de vie. Parce que s'il n'a pas donné plus de moyens aux employeurs, et les employeurs aussi devaient bien nous payer. Regardez, en cette période, le premier confinement, la mairie de Paris nous avait fourni des masques, des gels hydroalcooliques et tout. Mais cette fois-ci, ils n'ont rien donné. C'est notre employeur même qui nous fournit les gels, les masques et tout ça. Ça, c'est pas déjà bien parce que si on fournit déjà tout ça aux EHPAD, pourquoi ne pas donner aux auxiliaires de vie? Je crois que nous, on s'occupe vraiment des personnes. Moi, je m'occupe d'une personne vraiment très, très fragile parce que Vincent est arrivé, Charlotte est arrivée chez cette dame. Elle voit comment je m'occupe de cette dame. Et ça, c'est une dame que je ne peux pas travailler là-bas sans masque, ni le gel hydroalcoolique. Parfois, quand ma société ne me donne pas, son fils est obligé d'acheter. On n'a même pas déjà le matériel pour travailler. on n'a pas le matériel et on est très mal payé, vraiment. Moi, j'ai une fille de 7 ans, je n'ai pas d'aide. Avec ce qu'on me paye, ça, c'est un jour au maintien. Hein.
Oui, et actuellement, pour vous loger, en fait, vous êtes...
Pour le moment, je suis hébergée parce que ça fait 4 ans que moi, j'ai fait la demande d'un logement social. Ça fait 2 ans que j'ai été reconnue prioritaire et que je devais être logée d'urgence. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas logée. Je continue d'attendre. J'ai consulté un juriste qui a fait un recours au tribunal. Je suis partie au tribunal de Montreuil. On a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de me loger jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai même pas de réponse. Donc, je continue d'attendre parce que moi, je ne sais pas, je ne vais pas les mettre le feu. Je ne vais pas arriver dans leur bureau pour faire ceci. Non, moi, je continue d'attendre. Je vis dans une chambre avec ma fille. Parce que là où j'ai un enfant de 7 ans et ça fait 4 ans que je suis dans cette maison, ma fille ne peut pas vivre, ne peut pas avoir une vie comme les autres enfants, parce qu'elle ne peut pas jouer, elle ne peut pas jouir de sa liberté comme si on était chez nous. Elle est mieux à l'école qu'à la maison, parce que quand elle est au centre de loisirs, il y a parfois, quand je vais la chercher, elle n'est pas contente. Bon, je dis, on doit rentrer à la maison, parce qu'elle sait qu'à la maison, elle n'est pas à l'aise. Elle vit dans la chambre, ce n'est pas normal. J'ai un travail en CDI, même si c'est mal payé, mais je suis quand même en CDI. Et j'ai une petite fille de 7 ans. Là, je ne suis toujours pas logée. Et ils disent, j'ai été reconnue prioritaire. Je ne sais pas ce qu'ils appellent être logée d'urgence. Et déjà, ça va déjà à 2 ans. J'attends toujours.
Ça, c'est tout ce qui pèse sur l'exercice de votre métier. En même temps, ce qui est frappant dans les portraits, dont vous avez cité Vincent et Charlotte, hein, c'est le photographe et la journaliste qui vous ont déjà suivi, vous dites beaucoup qu'en fait, malgré tout, vous l'aimez, ce métier.
Bah, oui.
Qu'est-ce qui vous procure comme satisfaction, qui fait que vous aimez ce métier-là?
Le travail d'auxiliaire de vie, aider les personnes. Moi, je fais ce travail depuis que j'ai 12 ans. Chez moi, je suis camerounaise. Donc, je le faisais sans être forcée, sans être payée. Mmh. Je venais en aide aux femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Quand je voyais que celles avaient besoin d'aide, parfois, je trouvais le linge tout sale, la maison et tout ça. Moi, je partais toujours les aider. Mon père ne voulait pas, mais finalement, on les disait, mais peut-être elle est faite pour ça, il faut la laisser, il faut la... Bon, j'aime ce travail depuis le bas âge. J'aime aider les gens. Quand je finis ma journée, quand je viens au travail... Même dans les transports, il y a des personnes âgées que j'aide dans les transports. Je vois celle-là avec un caddie qu'elle n'arrive pas à traîner. Je dis, madame, vous avez besoin de l'aide? Elle me dit oui. Bon, ça, je crois que je suis née pour aider les gens. Bon, ça, c'est, malgré que c'est mal payé, mais c'est un travail que moi, j'aime. J'aime être en contact des personnes, surtout des personnes âgées. Je n'ai plus de parents, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Mais j'aime être en contact de ces personnes-là. Et moi, j'aime vraiment ce travail. Je le fais vraiment avec tout mon cœur. C'est un travail que j'aime. Et je l'aimerais jusqu'à ce que j'aurai l'âge d'arrêter.
Najat Vallaud-Belkacem, là, avec ce que vient de dire Marie-Basile, on est au cœur de cette fameuse notion de care, alors qui est toujours un peu difficile à appréhender. C'est cette idée de prendre soin. J'aimerais vous la faire peut-être mieux expliquer. Alors, quand même, dans le livre, hein, vous le définissez des fois comme une radicalisation du féminisme. Vous écrivez aussi que ce monde du care est habité au-delà des femmes par les gens de basse classe, de basse caste ou d'origines étrangères. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu mieux nous expliquer, est-ce que le care, c'est une nouvelle façon de décrire la réalité par le soin? Est-ce que c'est un projet politique? Est-ce que c'est une éthique? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Qu'est-ce qu'on désigne par ce mot-là?
C'est plusieurs choses à la fois. Je dirais que c'est une façon d'être au monde, en fait. C'est une façon d'être au monde, et donc c'est une éthique.
Un peu ce que vient de nous dire Marie-Claude.
Absolument. Et c'est pour ça que j'écoutais, j'étais émue parce que vous disiez, parce que, en fait, on voit bien que ça n'est pas qu'un métier. C'est-à-dire, vous dites, depuis l'âge de 12 ans, j'ai su que j'étais faite pour ça. Donc, en fait, c'est vraiment une façon d'être au monde. C'est une façon d'appréhender le monde autour de soi. C'est une façon de s'intéresser aux autres, de chercher en priorité à aider les autres. En fait, le contraire de care, puisque c'est un mot anglo-saxon, dont on n'a pas vraiment de traduction en français, mais en anglais, justement, le contraire, ce serait la carelessness. Mmh. La carelessness, c'est la négligence. C'est l'absence d'attention à. Eh bien, ce dont on est en train de parler, c'est l'absence de négligence, c'est-à-dire ne pas oublier, de qui on est entouré et de quoi on est entouré. C'est-à-dire qu'au fond, ce care, il porte à la fois sur les personnes et sur notre environnement. Et c'est en ça que c'est une éthique. Évidemment qu'il y a une traduction écologique, parce que en fait, cette éthique de faire attention à ce qui nous entoure, de préserver, d'aider, etc., ça vaut à la fois pour les gens. Quelle que soit leur situation de fragilité, vous vous occupez de personnes âgées, vous vous occupez de personnes en situation de handicap. Donc, ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles sont vulnérables qu'elles sont moins importantes. Or, parfois, on a l'impression de vivre dans des sociétés où ces gens-là sont les oubliés de chez eux. Oubliés, il y a des gens qui s'en occupent, vous voyez, qui leur accordent l'attention. Et de la même façon, l'environnement qui nous entoure, y faire attention, consommer de façon responsable, ne pas gaspiller. Enfin, on est quand même dans un monde, si on sort un peu de la France, où on a 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour. Est-ce qu'on s'en rend compte de ça ? 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour. Et on est dans un monde, en même temps, où on est capable de gaspiller un tiers de la nourriture qu'on produit dans notre région du monde. Bon, donc, il y a quand même un sujet d'absurdité de nos fonctionnements. Et cette absurdité de nos fonctionnements, elle porte préjudice évidemment à la Terre, on l'a beaucoup dit en parlant d'écologie, elle porte préjudice aussi à notre bien-être collectif. Et donc pour revenir à ce qui était décrit à l'instant, est-ce qu'on va laisser les gens qui font preuve de ce care, de cette attention aux autres, comme ce qui vient d'être décrit là, s'épuiser parce qu'on aura été incapable de repenser nos fonctionnements et l'utilité sociale de nos métiers. Et donc, moi, ce que je voudrais, alors je sais qu'on est dans une situation telle en ce moment que les gens veulent surtout revenir à l'avant Covid-19 et ne rêvent même plus d'un monde d'après, mais moi, j'en appelle à nouveau à penser quand même le monde d'après. Le monde d'après, c'est un monde dans lequel résolument on se demande ce qui compte vraiment dans nos sociétés et on accepte que pour que les salaires de ceux qui sont aujourd'hui oubliés augmentent, il faut réduire les salaires de ceux qui ont beaucoup perçu sans justification forcément.
Donc ça, c'est toute la question de l'utilité sociale. Mais alors, justement, là, vous me fournissez l'occasion d'en venir au dernier temps de notre discussion sur les pistes, au fond, pour les solutions, pour mieux valoriser ces types de métiers et d'activités. Ce que deux députés ont appelé une meilleure reconnaissance des métiers du lien, ça c'est le titre de la proposition de loi qui est portée par les députés François Ruffin et Bruno Bonnel. Marie Bazide, vous avez été auditionnée par ces deux députés en juin dernier. On va voir une photo de Vincent Jarosso qui a documenté cela aussi. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces deux députés, pas seulement sur votre travail, mais aussi sur ce qu'il faudrait faire, sur les revendications que vous portez
avec... Oui, toujours cette fameuse revalorisation des salaires, parce que c'était même déjà le mot-clé. Parce qu'il y avait des auxiliaires de vie qui sont venus en province. Je crois que j'étais la seule qui était de Paris. Oui. Et en plus, le travail que nous faisons, les gens ont du mal à reconnaître ce qu'on appelle auxiliaire de vie. Parce que pour beaucoup, quand vous allez travailler, même les familles, hein, quand vous allez intervenir chez une personne, on vous considère comme une femme de ménage. Voilà le mot qu'ils appellent, femme de ménage. Mais si, le ménage, oui, parce que ça fait partie de ce qu'on fait. Moi, je ne peux pas rester avec cette dame toute la journée et ne pas faire le ménage dans la maison. Je dois mettre la propreté, je dois faire le rangement dans la maison. Je lui fais à manger. Une femme de ménage, quand elle arrive chez toi, elle fait son ménage, elle s'en va. Elle ne s'occupe pas du reste, s'occuper du linge, s'occuper à manger de la dame, s'occuper de la dame elle-même. Donc, ce respect, mais je crois que beaucoup... Avec les fils de Florenza, ils me font beaucoup confiance. Parce que quand moi, je suis avec leur maman, ils sont beaucoup plus... Même celles qui viennent les week-ends, ils ne sont pas vraiment confiants comme quand je suis là. Quand je suis là, ils sont confiants, ils savent que même si c'est quoi... Ah oui, leur maman est bien. Même quand elle était tombée, on était parti aux urgences à l'hôpital Saint-Antoine. À chaque fois qu'on appelait son fils, il disait non, appelez Marie parce que c'est elle qui connaît ma mère, c'est elle qui vit avec elle. Bon, moi, je n'y connais rien. Donc... La revalorisation des salaires, le salaire surtout, et à améliorer les conditions de travail parce qu'on manque de matériel.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Ouais.
Je reviens parce qu'il y a eu cette annonce d'une prime. Hein. Alors, ça a commencé par les soignants. Après, il y a une prime qui a été accordée
aux
auxiliaires de vie. Combien avez-vous touché?
Notre directrice a beaucoup, beaucoup bagarré pour ça. Nous aussi, on a eu cette prime, cette fameuse prime du Covid. Les 1 500 euros, nous, on les avait eus aussi. Mais il y a beaucoup d'auxiliaires de vie qui n'ont pas encore cette prime.
Mais on est d'accord que c'est une prime, c'est pas une revalorisation.
Non, ça c'est une prime. Ça c'était une prime.
C'est très circonstanciel.
Ouais, ça c'est une prime et c'est grâce à la mairie de Paris parce que c'est la mairie de Paris qui nous a aidé à avoir cette prime là.
Logivité, c'est la structure pour laquelle vous travaillez. Vous êtes délégué du personnel. Ça fait 3 ans, me disiez-vous, que vous étiez délégué du personnel. Qu'est-ce que vous mettez dans ce rôle-là? Quels sont les combats que vous menez dans ce rôle de délégué du personnel?
Je suis déléguée du personnel en même temps intervenant à domicile. Mon rôle plus, c'est quand j'interviens en domicile, il y a beaucoup de personnes. Je fais les remplacements. Parfois, on m'envoie comme ça chez les gens. Ces personnes ne savent pas que je suis déléguée du personnel. Je vais chez les gens aussi pour voir comment ça se passe avec mes collègues. Et j'arrive chez une dame, je vais lui poser des questions. Comment ça se passe avec ma collègue? Est-ce que ça se passe bien? Il y a des petits problèmes, des petits conflits que moi, je résous entre mes collègues et les personnes aidées sans même appeler Longévité. Parce que quand j'arrive, elle va me dire, et surtout des petits trucs, hein, pas même grand-chose, parce qu'il ne suffit pas grand-chose pour qu'il n'ait pas l'entente. Mais le travail que nous faisons, c'est d'abord la confiance. Il faut chercher à gagner la confiance de la personne. Si la personne n'a pas confiance en toi, quel que soit le travail que tu vas faire chez elle, elle ne va pas t'apprécier. Elle va même créer des histoires. Elle va appeler, elle va dire, elle m'a fait ceci. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, quand moi, je vais à domicile, je vais faire les remplacements. C'est pour essayer de voir ce qui se passe à domicile. Et en plus, quand je vois que l'auxiliaire de vie ne fait pas bien son travail, ben, je ne veux pas appeler le GVT pour dire que tel qui va chez tel ne fait pas le bon travail. Moi, je fais un mot, j'attire son attention, je laisse le mot posé sur la table et je prends son numéro, je l'appelle, je dis, quand tu arrives chez la personne, fais l'effort de faire ceci parce que moi, j'étais là-bas, j'ai trouvé que c'est pas, peut-être la maison n'est pas propre, peut-être la dame n'est pas bien. Quand nous allons vers les personnes, c'est pour les venir en aide, c'est pas pour les stresser de plus parce que si vous arrivez chez une personne, qui est encore plus stressé, car en vous voyant, ce n'est pas déjà bien. Donc, j'ai fait l'effort d'arranger ça. Et en plus, quand une auxiliaire de vie a un problème qui est convoqué à Longévité, elle appelle soit moi, parce que je ne suis pas seule. Hein. Nous sommes 6 ou 7 délégués. Donc, elle appelle une personne qui peut l'accompagner. Longévité a été appelée par une personne, elle m'a fait ceci. Alors, bon, peut-être elle se sent un peu coupable, mais elle ne veut pas se présenter seule. Il faut qu'il y ait un délégué à côté d'elle. Bon. Et moi, je fais plus à domicile. Moi, je n'interviens pas. Quand ils ont des problèmes à Longévité, moi, je n'aime pas intervenir là-bas. Même chez Florenza, quand j'arrive là-bas le lundi, quand je pars vendredi comme aujourd'hui, je laisse la maison propre. Il faut que quand je reviens lundi, que je trouve cette maison propre. Si je trouve que c'est sale ou bien le micro-ondes n'est pas nettoyé, le frigo n'est pas nettoyé, moi, je vais faire un mot et je vais attirer l'attention de la personne qui vient le week-end. Quand vous trouvez la maison propre, il faut la laisser propre. Et j'aimerais que vous preniez plus soin de cette femme parce qu'elle est vraiment fragile. Je fais ça, ça va passer entre nous. Il y a d'autres qui m'appellent et disent « Merci, j'ai vu le mot, je crois que prochainement, ça va bien se passer. » Et c'est comme ça. Et samedi, il y a même un week-end que je suis venue chez Florenza parce que la dame qui vient le week-end ne savait pas comment ça se passe. Moi, je me suis déplacée de la maison. Je suis venue pour la montrer comment ça se passe, comment faire son repas. Parce que si d'autres font je prends l'exemple, le steak haché, elle va faire ça dur. Et quand on va la poser, elle va dire non, je ne mange pas, ce n'est pas bon. Non, je viens, je lui montre comment ça se passe, comment on peut lui faire le repas pour qu'elle mange bien. Donc moi je viens comme ça, je dis même pas à Longévité, je ne suis pas payée pour ça, mais je me déplace pour que la dame soit bien avec celle qui vient le week-end.
Je poursuis sur la question des solutions. Najat Vallaud-Belkacem, avec Sandra Logier, vous écrivez que pour revaloriser ces métiers du care, les outils foisonnent. Alors on ne peut pas dire toutes les pistes qu'il y a dans le livre, mais quels seraient les, je sais pas, peut-être 1 ou 2 principaux points pour améliorer la prise en compte de ces métiers du care.
Mais en fait, qu'on le veuille ou pas, la question de la rémunération est centrale.
Ça, c'est celle que vous avez mise en avant tout à l'heure.
La question de la rémunération est centrale. Parce que, en vérité, continuer à dire « mais si, c'est important », puis ne pas payer à sa juste valeur, c'est se moquer du monde, en réalité. Donc, moi, je suis pour que, de la même façon qu'un Ségur de la santé a été pensé, mais enfin, avec des résultats, comme on le disait, assez insatisfaisants, il y ait une véritable démarche qui soit initiée et qui inclut l'ensemble des métiers du care. C'est-à-dire pas simplement ceux qu'on trouve dans les services publics, mais aussi ceux qu'on trouve dans le privé. Parce que souvent, les pouvoirs publics vous disent « mais on ne peut pas, le privé, intervenir sur le montant des salaires ». Mais si, il y a évidemment des leviers, évidemment l'augmentation du SMIC par exemple, mais il y a aussi d'autres leviers qui permettent aux pouvoirs publics d'intervenir dans le privé. D'autant que le secteur privé et les entreprises dont on parle ont bénéficié quand même d'un certain nombre d'aides du gouvernement et donc on aurait pu attendre des conditionnalités, notamment pour que ces personnels-là soient mieux rémunérés. Bon. Mais au-delà de la rémunération, en fait, ce dont il est question ici, c'est de démocratie. Parce que en écoutant le témoignage, là, je me disais, mais une fois de plus, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus cette voix-là ? Le problème, c'est que comme on n'entend pas cette voix dans l'espace public, on sous-estime complètement ce que signifient ces métiers. Donc, en fait, ils ne font pas partie de notre paysage mental. Et il n'y a qu'en temps de crise, quand on en est réduit à se retrouver soi-même à la maison, à prendre soin soi-même de ses personnes âgées ou de ses enfants, etc., qu'on se dit « Ah oui, dis donc, c'est tellement précieux, en fait, ces métiers-là. » Mais si en temps normal, hors crise, à la télévision, à la radio, on entendait plus souvent ce type de témoignage, eh bien, je peux vous dire qu'il ferait plus partie du récit et donc il ferait plus partie des priorités émises, énoncées par notre démocratie. Or, ce qu'on dit dans le livre, c'est que c'est le problème de ce qu'on appelle le patriarcat. Le problème du patriarcat, c'est qu'au fond, c'est une voix qui est encore trop exclusivement masculine, qui dit ce qui est prioritaire, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bien, ce qui est mal. Et que c'est cette voix qui est encore trop masculine qui définit finalement ce que doivent être les priorités de notre politique. Et c'est contre ça qu'il faut aujourd'hui lutter. Et les médias doivent aussi jouer leur rôle pour redonner la parole à ces périphériques, à ces oubliés de la société, que sont les travailleurs du care, que sont les femmes, on l'a dit, que sont aussi les banlieues, que sont tous les gens qui sont à la périphérie de notre société aujourd'hui. Et c'est en entendant mieux ces voix qu'on fera enfin vraiment fonctionner la démocratie.
Je crois que nous sommes vraiment des oubliés et il faut que les gens sachent qu'il y a quand même les oubliés. Il y a nous qui sommes derrière les portes. Nous nous occupons des personnes de troisième âge, les personnes tellement fragiles. Je crois que quand Dieu nous prête vie, tout le monde va passer par ce chemin. Et c'est peut-être quand on sera là qu'on va connaître l'utilité de la vieillesse. Ça, ces personnes sont vraiment précieuses, hein, je vous le dis, parce que c'est tellement précieux d'être en contact avec ces gens-là. Moi, je suis en contact avec eux, ça fait presque 6 ans que je travaille à Longévité, et je suis tellement contente de travailler avec ces gens, malgré que le salaire n'y est pas, malgré qu'on est mal payé, malgré les conditions de travail, mais on est content de travailler avec ces gens. Franchement, c'est un travail très précieux que, sauf les gens qui nous ont côtoyés, sauf les gens qui sont arrivés dans nos lieux de service, qui connaissent à peu près ce qu'on fait.
Je peux rebondir là-dessus parce que, d'abord, je suis complètement d'accord avec vous. Et au fond, ça permet de répondre à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le care ? Donc, on disait une éthique. En fait, c'est aussi une prise de conscience de ce que la vulnérabilité, en fait, c'est anthropologique. C'est-à-dire que ça affecte, ça affectera un jour ou l'autre chacun d'entre nous, comme vous venez de dire. Bah, on sera tous amenés à un moment donné à être une personne du troisième âge, enfin, si Dieu nous prête vie, comme vous dites. Prendre conscience de cette vulnérabilité-là qui est générale, qui est générique, en fait, ça nous aide aussi à lutter contre des défauts de nos sociétés. Par exemple, parmi les défauts, le jeunisme, le fait de n'accorder de l'importance qu'à ce qui est jeune, bien portant, etc., etc., qui est quand même un défaut qu'on retrouve souvent dans les médias, hein, dans la couverture, en tout cas, médiatique de notre société. Le fait de ne pas forcément donner la parole aux plus pauvres. On parle toujours à la place des plus pauvres, on leur donne rarement la parole. Le fait d'avoir des idées reçues à propos, par exemple, des banlieues que j'évoquais tout à l'heure. Regardez pendant le premier premier confinement, le traitement qui a été notamment celui venant des pouvoirs publics.
C'est là-bas qu'on regardait
des banlieues.
Si le confinement était respecté.
Exactement.
Pas dans le
comme si naturellement il allait y avoir de l'incivilité là-bas. On ne prenait pas du tout en considération les conditions de vie dans les banlieues, la promiscuité, les habitations trop exiguës, le fait même que beaucoup des gens de ces banlieues, comme vous venez de l'exprimer en fait par votre témoignage, étaient les métiers exposés qui, tous les matins, à 5h ou à 6h du matin, prenaient les transports en commun pour aller travailler. Voilà, donc, moi j'ai été scandalisée par la façon dont on a traité publiquement cette question des banlieues, dont on s'est à peine arrêté sur le fait qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait quand même un taux de mortalité largement supérieur.
Aujourd'hui, c'est documenté.
Oui, mais au début, il a fallu un temps, il y a eu un temps de retard, de réaction. Regardez les files alimentaires qui s'allongeaient devant l'aide alimentaire, les files devant l'aide alimentaire qui s'allongeaient. Et il a fallu, là encore, des jours et des semaines avant d'en prendre conscience et d'apporter des réponses. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que, finalement, le CARE, c'est une éthique, c'est des métiers, c'est aussi, finalement, une forme de démocratie. C'est-à-dire que c'est le jour où on fera vraiment attention à tous ceux qui constituent notre société, qu'on sera dans une démocratie accomplie, parce qu'en entendant leur voix, on arrivera à rééquilibrer ce qui compte et ce qui ne compte pas.
Alors il y a entendre la voix et puis il y a rééquilibrer certains métiers. Je prends une citation qui est dans le livre, ce sera ma dernière question. Vous dites il faudrait créer des dispositifs pour inciter, voire pour contraindre les hommes à s'engager dans le domestique, dans le lien, dans l'attention, la relation, l'ordinaire, donc ce travail du care. Est-ce que finalement, c'est un peu ça la leçon que vous tirez, je vous pose la question à toutes les deux, est-ce que le monde sera plus égalitaire de façon générale et entre les hommes et les femmes, si les hommes eux-mêmes font le type de travail que fait Marie-Basile, s'il y a une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. D'abord Marie-Basile, puis on
terminera. Ce que nous, les auxiliaires de vie, il y a 90% de femmes d'abord. Hein. Ouais. Il y a quand même quelques rares hommes, mais 90% de femmes. Et ce lien-là, je ne sais pas, soit ils ne veulent pas, soit les hommes ne veulent pas ce genre de travail. Parce qu'il y a d'autres qui disent « Ah, ça, c'est l'esclavage transformé en… Bon, » ils peuvent dire ce qu'ils entendent. Nous, on sait que, moi particulièrement, je sais que j'ai ma conscience professionnelle. Quand je sors de chez moi le matin, je sais que je viens travailler, je viens en aide aux personnes âgées, aux personnes en difficulté qui ont besoin de moi. Chez nous, on a quand même quelques… On a les hommes chez nous. Il y a même d'autres qui vont déjà à domicile. Et ces hommes ont eu des problèmes pour même aller à domicile, parce que ces femmes ne les acceptaient pas.
Hey.
Ah oui, on les mettait d'abord faire un peu un stage avec nous. On dit, bon, vous allez chez elle, vous l'amenez d'abord, vous présentez à la personne. Mais il y a beaucoup de femmes qui les rejetaient, disaient, non, nous, on n'a pas besoin des hommes. Est-ce que si moi, je vais faire ma toilette, c'est toi qui vas me faire la toilette? Mais nous, les femmes, on fait bien la toilette aux hommes. Moi, j'ai un monsieur que je donnais la douche tous les matins. C'est pas interdit. Il y a, vous arrivez chez quelqu'un, ça dépend de même si vous lui donnez la douche, il y a une façon de… la personne a son corps, il a des parties intimes que vous devez respecter quand vous lui donnez la douche. Donc, ils ont d'abord eu ce rejet, mais finalement, maintenant, ils interviennent sans problème. Ils vont chez les femmes, mais au début, ce n'était pas facile. Donc, même des personnes aidées ont mis dans leur tête que ce travail, c'est le travail des femmes.
C'est quelque chose que plein de gens ont intégré.
Ouais. Ça veut dire que c'est psychologique. Quand ils voient déjà un homme qui va… Ils disent, mais non. Après, d'autres disent, non, vous venez chez nous, vous allez nous agresser et tout ça. Bon, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui va travailler dans une structure comme Longévité ne peut pas avoir ses idées dans la tête. Je vais aller chez quelqu'un et l'agresser et tout, mais non. C'est aussi psychologique pour eux, mais je ne sais pas. J'espère qu'un jour, les hommes vont nous rejoindre dans ce service-là.
Najat Vallaud-Belkacem.
Oui, non, mais il y a un très beau slogan féministe des années 70 qui disait « le privé est politique ». Et en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, en fait, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui se passe à la maison est totalement structurant de comment on voit la société ensuite. C'est-à-dire que, au fond, la raison pour laquelle les hommes en question rechignent à venir faire le même métier que vous d'auxiliaire de vie, c'est aussi parce que jamais ou très rarement, ils n'ont été en situation à la maison, par exemple, de prendre soin de leurs enfants. Donc vous voyez, ou même eux, quand ils étaient enfants, ils n'ont pas été habitués à voir leur père prendre soin d'eux. Donc, y compris ce rapport au corps, etc., c'est compliqué pour eux. Donc, en fait, tout commence là. Mmh. Tout commence dans le domicile, au niveau domestique. Et donc, nous, ce qu'on croit, et ça, ça fait des années que je le dis, c'est que la façon la plus efficace de modifier les perceptions à l'extérieur, c'est de faire en sorte que déjà à l'intérieur, un cadre soit construit pour que les hommes et les femmes fassent l'expérience, et notamment l'expérience de s'occuper des enfants lorsqu'ils arrivent, dès le plus jeune âge, avec les contraintes, avec les bonheurs. Parce qu'en réalité, nous, les femmes, on le sait, certains hommes commencent à le savoir, tous ne le savent pas. C'est quand même d'abord un bonheur de s'occuper des enfants. Mais ouais, comme ils ne sont jamais mis dans cette situation-là, ou quasi jamais, eh bien, ils passent à côté de quelque chose. Et passant à côté de quelque chose, ils ne savent pas la valeur à accorder à cette chose-là. Ils ne savent pas la valeur à accorder, justement, à ces métiers du soin, de l'attention aux autres, etc. Et donc, on pense que, en effet, comme l'Espagne, par exemple, vient de le décider, vous savez, de passer quand même son congé paternité pour les pères à 16 semaines rémunérées 100%, eh bien, la France pourrait se diriger vers des choses aussi ambitieuses que cela. Il y a une décision qui a été prise récemment, mais elle n'est pas aussi ambitieuse, comme vous le savez, puisque c'est simplement quelques jours. Mais nous pensons que c'est ça la voie du progrès pour cette question d'égalité femmes-hommes.
Très bien. Ben, je vous remercie toutes les deux pour cet échange passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était une émission de la collection La Révolution Féministe et tout ça, ça se passe sur Mediapart. À très bientôt pour d'autres vidéos du studio.